Regardez donc vos montres à gousset et autres montres connectées. Il est 20h sur Radio G. Bienvenue. Quasar Anzi été 101.5 Radio G. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde en vous connectant tout simplement sur le direct du site de la radio. C'est exactement radio-g.fr et là vous nous écoutez en direct, voire même en podcast, puisque vous pouvez nous retrouver et tous les numéros passés de cet été, puisque c'est le 8e et dernier numéro de Quasar Anzier été, puisque nous avons été là, nous vous avons accompagné tout au long de ce mois de juillet et d'août 2023. C'est Stéphane Corbin, je vous accompagne pour cette émission de Quasar Anzier, version été, qui va prendre ses quartiers d'été définitivement à 21h dans quelques instants. Et puis nous nous retrouverons pour la nouvelle saison radiophonique 2023-2024. Et ce sera exactement le 14 septembre, un jeudi soir, de 20h à 21h. Et là, nous retrouverons en période radiophonique normale notre rendez-vous espacé tous les 15 jours. On espère que vous êtes bien portés pendant cette semaine. C'est l'émission de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers pour lesbiennes, gays, bi, trans et personnes intersexes et plus pour les autres identités. Nous sommes là pour vous parler de nos luttes, de nos joies et de nos peines. Une semaine qui aura été véritablement chargée avec Kevin Endoram qui a écopé d'un match de suspension seulement avec sursis pour avoir proféré des injures à caractère homophobe. Et puis la semaine aussi où Jean-Marc Morandini a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur un comédien de 19 ans. Le Canada qui met en garde les voyageurs canadiens LGBTI+, qui se rendent aux États-Unis, on se demande bien pourquoi. L'Ouganda qui inculpe un homme pour homosexualité aggravée et cet homme risque la peine de mort et il faut le soutenir par tous les moyens possibles et imaginables pour que ces lois rétrogrades ne s'appliquent plus en Ouganda. Flag qui avait tranquillement élu un président souverainiste et proche d'Éric Zemmour. Et puis au Liban, des soi-disant soldats de Dieu chrétiens ont attaqué un bar où se déroulait un drag show. Et puis enfin, en France, Drag Race France a vu Kayona l'emporter. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va passer un été avec les garçons, avec Sébastien Delage. On se retrouve tout de suite après, comme d'habitude, en ouvrant et en feuilletant les pages de l'agenda de Quasar.
Je crois qu'il s'appelait Simon dans la calanque de Sugiton. Quand nos deux corps étaient iodés, qu'on goûtait à nos peaux salées. Je me souviens de toi Clément, ton sac à dos pour seul vêtement. Ni du levant libre comme l'air, main sur les hanches tu étais fier. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire que j'emporte avec moi, ces divins péchés. C'est dans les dernières heures que les paupières sont noires, que je ramène à moi les garçons de l'été. Carte postale sans Saturnin, signée en bas par Valentin. Mon bel amant du Luberon, beauté cruelle sans concession. Rendez-vous sur l'île de Bréa, mon beau marin c'était Sacha. Comme ton ciré on était bleu, ce doux matin chaud et pluvieux. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire que j'emporte avec moi, ces divins péchés. C'est dans les dernières heures que les paupières sont noires, que que je ramène à moi les garçons de l'été. Dans les cuissons à Montpellier, j'ai fait l'amour à Timothée. On s'enfumait nu sur les toits, sur la Canourgue on était roi. Un dernier stop à La Rochelle, baiser mouillé avec Daniel. Les doigts rongés entrelacés, les franco nous ont fait danser. Tout finit toujours à Paris, les peines de cœur et le ciel gris. Au coin d'une rue je t'ai revu, tu ne m'as jamais reconnu. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire que j'emporte avec moi, ces divins péchés. C'est dans les dernières heures que les paupières sont noires, que je ramène à moi les garçons de l'été. C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire que j'emporte avec moi, ces divins péchés. C'est dans les dernières heures que les paupières sont noires, que je ramène à moi les garçons de l'été. Garçons de l'été.
En tout cas, ceux qui ont la peau iodée, et on s'en souviendra. L'agenda de Quasar. Alors Quasar, c'est le centre LGBTI+ d'Angers et du Maine-et-Loire, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Et nous nous trouvons exactement géographiquement, et notre adresse est 15 rue de Jérusalem. Si vous ne savez pas où trouver, d'abord le GPS vous aidera, mais pour situer un peu dans Angers, c'est entre l'avenue Pasteur et le boulevard des Deux Croix, ou si vous préférez, un des murs du cimetière de l'Est. Et nous nous situons au milieu de la rue, près du petit rond-point. Vous faites bien attention, le 15, c'est bien l'entrée à gauche et pas l'entrée principale. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce mois de septembre, puisque nous sommes le 31 août? Donc, autant vous dire que nous parlons de l'agenda de septembre. D'abord, tous les jours, et ce, y compris cet été, à part une petite semaine d'interruption, il y a l'accueil permanence tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Alors là, vous venez, prenant rendez-vous si vous le souhaitez en appelant légèrement avant, ou vous venez directement, il n'y a aucune difficulté. Alors, samedi 2, eh bien ça sera la permanence, puisqu'il y a aussi une permanence le samedi, mais elle est historique, de 17h à 19h. Vous pouvez venir prendre un café, papoter, poser des questions, on vous réorientera si nécessaire, ou on répondra à vos questions de la part des permanencières ou des permanenciers. Mardi 5 septembre, on recommence l'année avec, à 19h, le temps de transparent. La réunion des familles, des parents, des personnes transgenres, agenres et non-binaires ou en questionnement, qui viennent poser leurs questions, discuter entre eux. Les jeunes ou les plus âgés et majeurs de la famille qui sont trans, agenres et non-binaires ne sont pas présents, mais ils sont reçus par des personnes de la team Trans Inter de Quasar, qui sont des personnes concernées, avec également des personnes cisgenres, de façon à pouvoir échanger sur tout ce qui se déroule et tout ce qui se joue dans ces moments-là. Le lendemain, le mercredi 6 à 18h, c'est la permanence juridique. Vous poussez la porte, vous venez nous parler de vos difficultés, des problèmes d'homophobie au travail, en famille, dans la vie quotidienne, partout où c'est possible, ou de discrimination. Nous sommes là pour vous aider. Le samedi 9, attention, c'est la rentrée aussi pour les jeunes, avec la permanence 15-25 à 15h et à 17h, la permanence jusqu'à 19h, ouverte à tous et à toutes. Dimanche 10 à 14h30, c'est l'après-midi jeu. On vient jouer aux cartes, aux jeux de plateau, et attention, on ne triche pas. Le jeudi 14, eh bien, nous nous retrouvons pour la rentrée de Quasar on the Air pour cette nouvelle donc saison 2023-2024. Vendredi 15, ce sera à 20h la conviviale, ce temps de repas partagé. Et le lendemain, le 16, c'est la reprise à 10h des cours de français. Alors, si vous connaissez des demandeuses ou demandeurs d'asile, des personnes qui ont besoin de se perfectionner en français, eh bien, vous nous contactez sur le téléphone de l'association 0658 422 717 0658 422 717 et c'est Sylvia qui vous recevra. À 15h, ce sera Transat en ce samedi 16 septembre. C'est le temps pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Un temps en non-mixité, un temps d'échange, de discussion sur tous les sujets possibles. Et puis à 17h, la permanence. Mercredi 20 septembre, 18h, la permanence juridique. Le samedi 23 septembre, à 10h, les cours de français. Et puis 15h, la permanence 15-25 pour les plus jeunes. Vous leur signalez que ça existe, ils viennent, ils rencontrent d'autres personnes du même âge et ils partagent leurs problématiques, leurs questionnements ou leur joie. À 17h, la perm. Et puis mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29, un programme spécial Gay Pride. Alors, il s'agit de l'association nationale qui aide au bien vieillir LGBTI. Et il y aura donc un temps de rencontre le mercredi 27 avec les professionnels des EHPAD, des réseaux de santé, pour leur présenter le projet, le label et tout ce qui tourne autour de Gay Pride. Et le jeudi, ce sera une projection avec des professionnels et des étudiants en économie sociale. Et puis le vendredi 29, il y aura une signature de Francis Carrier, le président fondateur à la librairie Richer. Le jeudi 28, deuxième numéro de la saison de Quasar en hier à 20h. Et puis samedi 30, à 10h, les cours de français. Et on revient encore avec bien notre permanence à 17h. It's a bad idea. It's an we'll be right back. extrait de la playlist de Committed par notre camarade Jolan Mafi, Boy Genius avec ses $20. Et rassurez-vous, nous retrouverons d'autres titres de cette playlist. Premier invité ce soir au téléphone, eh bien c'est Jean-Michel Dunant, alors un habitué de l'émission, hein, puisque nous l'avions déjà sollicité de nombreuses fois. Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Alors, nous nous sommes parlé rapidement tout à l'heure, parce qu'il y a un sujet d'actualité absolument brûlant, c'est ce reportage que BFM a diffusé. Et c'est le reportage d'une jeune journaliste qui s'est infiltrée finalement dans ce qu'on appelle un temps de thérapie de conversion. Évidemment, les auteurs ne vont pas l'appeler de cette façon, mais nous, nous l'appelons thérapie de conversion. Alors, est-ce que tu peux redonner le cadre de ce qu'on a vu et d'expliquer qui est et qu'est-ce que Torrent de Vie, qui est l'association qui a fait l'objet de ce reportage?
Alors, Torrent de Vie est un mouvement au sein des églises évangéliques en France. C'est un mouvement international, mais qui est bien implanté en France et qui, effectivement, depuis plusieurs années, propose des sessions d'été qu'ils appellent, eux, des sessions de restauration que nous pouvons effectivement appeler des thérapies de conversion, à savoir des retraites, entre guillemets, spirituelles, pour restaurer les personnes homo dans ce qui est pour eux le plan divin, le plan de Dieu sur l'humanité, à savoir l'unique hétérosexualité. Et ce qui est à noter, c'est que Torrent de Vie a déjà fait l'objet d'une infiltration il y a quelques années par votre collègue Jean-Loup Adenor, jeune journaliste à l'époque, et ça avait d'ailleurs donné, avec d'autres infiltrations, le film documentaire Homothérapie conversion forcée qui a été diffusé sur Arte et qui est maintenant disponible en libre accès sur YouTube. Donc on avait déjà une infiltration très forte d'une session d'été de Torrent de Vie en Saône-et-Loire. Et là, cette jeune journaliste, effectivement, de BFM TV, s'est infiltrée dans une session qui avait lieu en Provence, si je ne me trompe pas, durant l'été dernier. Et on retrouve quasiment les mêmes scènes, les mêmes postures, les mêmes paroles, les mêmes tics de langage, etc. Les bras nous en tombent parce que ils avaient quand même un tout petit peu mis le volume au plus bas depuis qu'en République française, la loi interdisant les thérapies de conversion a été définitivement votée en janvier 2022. Mais là, manifestement, leur logiciel n'a pas changé d'un iota.
Alors, on peut dire que, très exactement, c'est un cas d'école, puisqu'il y a une infiltration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres et qu'il n'y en a pas eu d'autres, on est bien d'accord. C'est juste.
Ah oui, tout à fait. Alors là, bon, il y a une infiltration et donc de fait, il y a des images, mais comme ça avait été le cas avec Jean-Loup Adenor. Mais bien évidemment, je le disais cet après-midi à un journaliste de la presse écrite, il y a beaucoup d'autres témoignages qui nous arrivent, soit personnellement, soit dans le cadre de notre collectif Rien à guérir, qui a été créé pendant le vote de la loi pour recueillir des témoignages de victimes. Et nous avons des victimes dans tous les courants religieux, restons dans le christianisme, du christianisme, soit le catholicisme, l'orthodoxie. On n'a pas pour l'instant de témoignages dans l'anglicanisme, mais en revanche, protestantisme, catholicisme, orthodoxie, mais souvent ça se passe soit dans des petits groupuscules, un peu à la marge, entre guillemets, très cachés, soit dans des entretiens individuels, donc c'est très très difficile pour les victimes de parler, elles se sentent souvent elles-mêmes coupables parce qu'elles ont accepté ça, et puis elles n'ont pas, pour la grande majorité d'entre elles, le désir de le rendre public et de porter plainte. Là, pour le coup, nous avons des images, nous avons une association, Torrent de Vie, hein, qui de fait continue à proposer en République française, alors que c'est interdit, des thérapies de conversion.
Alors, pour parler clair, ces stages de torrent de vie consistent en quoi très exactement, pour comprendre les choses et pour celles et ceux qui ne seraient pas croyants ou croyantes, quelle est l'emprise et comment ça peut fonctionner, cette emprise ?
Bah, je pense que c'est assez simple, in fine. Ça s'adresse à des personnes homo qui ont un désir d'être en cohérence avec leur foi chrétienne. Elles voient bien que il y a un écartèlement entre ce que disent certains textes officiels de leurs églises, certains textes dits sacrés dans la Bible, etc. Tout ça non remis dans leur contexte historique, dans leur genre littéraire, enfin, etc. Donc une mauvaise interprétation finalement de la Bible, et elles vivent un espèce de tiraillement. Donc elles font appel elles-mêmes, ou elles sont entraînées par leur famille, par leurs proches, à aller dans ces sessions qui a tout un discours très séducteur, très séduisant. Ça, il ne faut jamais oublier ça, disant bah, finalement vous allez sortir de cet écartèlement, de cette non-paix intérieure, cette non-paix du corps. On va vous proposer d'être restauré dans une sérénité à la du corps, de l'esprit. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Puis on avance des slogans un peu psycho, un peu, enfin, c'est une espèce de grand cocktail. Donc les gens y vont bien souvent et avec bonne volonté, c'est-à-dire bon ben, ils se disent je vais sortir de là, de cette retraite, de ce moment un peu de retrait, pacifié, etc. Et donc c'est souvent sur plusieurs jours, pour ne pas dire toujours sur plusieurs jours. Donc il y a toute une ambiance souvent très chaleureuse, conviviale. Là aussi, c'est très, très sécurisant. Bon, dans un monde, on le sait bien, aujourd'hui, on a besoin aussi de ces moments un peu de chaleur humaine, etc. Et puis, bon, il y a des temps de prière, des temps de relecture de vie, et il y a surtout, et ça, c'est hyper dangereux, des enseignements très, très formatés et qui font entrer les gens dans un certain formatage, et tout doucement, l'emprise se met en place, c'est-à-dire que la personne, tout doucement, ne peut plus dire je, et on le voit très très bien d'ailleurs dans le bref reportage de BFM TV. Il y a une espèce d'emprise qui se met en place, d'emprise à la fois interpersonnelle avec les enseignants, et puis d'emprise avec les autres membres du groupe, et puis d'emprise du groupe pape au sein de lui-même, si je puis dire. Donc pour les gens qui finalement ne sont pas croyants parmi vos auditeurs, c'est finalement très simple, hein. C'est un phénomène d'emprise, parce que les personnes sont intimement persuadées, en tout cas les personnes qui organisent ces sessions-là sont intimement persuadées que la seule norme voulue par Dieu, enfin le Dieu en qui ils croient, c'est l'hétérosexualité. Donc tout ce qui est en dehors, bah, c'est pas dans la norme, c'est pas dans le droit chemin, entre guillemets. Donc gentiment, comme ça, de manière un peu light, tout ça, ben on va faire rentrer les gens dans le droit chemin. Seulement, le problème, c'est que c'est bien souvent hyper violent mentalement, et parfois, alors c'est pas le cas là dans l'infiltration de torrent de vie cette fois-ci, mais ça peut être aussi très violent physiquement, hein, très physiquement aussi, ouais.
Alors, nous recevons dans Quasar Anzière été spécial été Jean-Michel Dunant du collectif Rien à guérir. Toi, tu as connu des sessions de thérapie de conversion, mais je voudrais m'arrêter sur une chose que tu viens de dire et qui me semble très très importante. En quoi, vis-à-vis de ces groupes et de la foi chrétienne en général, je ne parle pas que catholique, en quoi le fait de ne plus pouvoir dire « je » est un signe extrêmement inquiétant ?
Bah, tout simplement parce que fondamentalement, alors je ne suis pas un spécialiste de la Bible, ni du Coran, ni d'autres textes dits sacrés, mais fondamentalement, toute démarche véritable de foi est inscrite, pour le coup, dans les fondations même des textes sacrés, c'est le respect absolu du « je », que l'on peut appeler aussi par un autre nom, qui est le respect absolu de la conscience, et même, on va même parfois plus loin en prenant une métaphore, en disant que la conscience c'est comme un sanctuaire inviolable. Violer un je, que ce soit par un autre individu ou par un groupe, qu'il soit religieux, philosophique, que sais-je, c'est commettre un viol de conscience. Et en tout cas dans la foi chrétienne qui est la mienne, c'est excessivement grave, parce que finalement c'est c'est prendre la place que Dieu même ne prend pas, puisque Dieu n'entre pas dans une conscience humaine. Il n'entre dans ce sanctuaire intime que dans une relation de souveraine liberté. Donc, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas... Et Dieu, enfin le Dieu en qui je crois, en tout cas, n'est pas là pour formater les gens, les violer, etc. En tout cas, tout le reste, tout ce qu'on a pu dire autour, tout ce qu'on continue à dire, ce sont des caricatures profonde du Dieu chrétien, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose de l'islam dans ses profondeurs. Donc c'est excessivement grave, effectivement. Et c'est le phénomène de l'emprise, parce que le phénomène de l'emprise, c'est finalement, je l'ai beaucoup dit moi-même en me basant un tout petit peu sur mon propre parcours personnel, c'est un rapt du « je ». Et quand, à partir du moment où tu ne peux plus dire je, eh bien progressivement, tu laisses à un autre la possibilité, le pouvoir de dire je à ta place. Et puis aussi, et ça c'est très grave, progressivement, une des conséquences, il y en a plusieurs, mais une des conséquences, c'est que tu ne peux plus dire nous non plus. Tu ne peux plus envisager une vie véritablement sociale. C'est tout le phénomène des sectes, finalement. Tu vas être pris dans un entre-soi, dans une bergerie fermée, et tu ne peux plus envisager un nous ouvert, collectif, qui rencontre la différence, etc. Donc, c'est très, 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 très grave, le rapt du jeu. Très, très grave.
Et est-ce que dans les cas que tu citais tout à l'heure, ce sont aussi des cas à torrent de vie ou ce sont des cas annexes du même style, mais pas avec cette structure ? On cite aussi l'association Courage aussi qui avait ces pratiques-là.
Alors, tout à fait. Alors je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais même plus si véritablement ils existent encore sur le territoire français, Courage. En tout cas, c'est vrai que le documentaire d'Arte et puis toute la médiatisation autour d'eux leur a sans doute fait un sacré coup d'une certaine manière sur leurs actions. Mais s'ils existent encore, ben effectivement, ils ont proposé ça. Je ne sais pas du tout où ils en sont. Mais en tout cas, ce qui est... je l'avais souvent dit ces derniers mois, et donc je ne suis pas... Vous dire que je suis surpris, ça serait mentir. Je ne suis pas véritablement surpris parce que encore une fois, le logiciel n'a pas changé dans ces groupes, chez certains de ces individus. J'en veux pour preuve que quand il m'arrive de discuter avec certains chrétiens très identitaires, très on va dire intégristes ou très fondamentaliste, finalement, leur logiciel n'a pas changé. L'homosexualité est une maladie, il faut la guérir. Donc, les thérapies de conversion. Alors, ils n'osent plus trop dire ça, parce qu'effectivement, ils savent bien que ça peut tomber sous le coup de la loi, mais leur logiciel n'a pas changé. Tant qu'on ne fera pas un travail de fond pour que leur logiciel change, qu'il y ait des remises en question, ça continuera à faire le lit des thérapies de conversion. D'autre part, je voudrais insister sur un point, moi qui suis chrétien catholique, c'est que ce qui fait le lit aussi des thérapies de conversion, et c'est un de mes grands combats de ces derniers mois, et je pense un combat qui va se mener sur le long terme, c'est que pour l'instant, par exemple, dans l'Église catholique, la doctrine, c'est-à-dire les textes qui structurent, entre guillemets, ce que l'on doit croire, si je puis dire, au niveau de la morale en particulier, n'ont pas changé par rapport à l'homosexualité. Donc, savoir que finalement, il y a une interprétation très littérale de la Bible et pour l'instant, l'homosexualité, au risque de faire dresser les cheveux sur la tête de nos auditeurs, pour l'Église catholique, est toujours intrinsèquement désordonnée et est un péché grave, quoi. Alors, il y a des avancées, certes, il y a des réflexions, il y a des paroles du pape François, etc., mais qui vont dans le sens d'une ouverture, etc., mais enfin, les textes n'ont pas changé. Donc, les textes peuvent faire le lit, là aussi, au sein de l'Église catholique, de thérapie de conversion. C'est tout à fait plausible, et ça existe.
Et c'est bien ça dont on parle. Alors, c'est tellement passionnant que je te propose de faire une pause, et on se retrouve dans 3 minutes, et on poursuit parce qu'il y a d'autres questions sous-jacentes. À tout de suite.
À tout de suite, Stéphane.
Un de nos coups de cœur de l'été, de cette playlist Committed. Anony and the Johnsons. It must change. Cool.
It must change. It must change. It must change. It must change. Will you talk to me? Must change.
Match Change avec Anony and the Johnsons pour le clin d'œil à l'hommage à Marsha P. Johnson. Et j'ai ri de Stonewall, entre autres, avec d'autres évidemment, Sylvia Rivera et d'autres. Au hasard, Anzi était, nous sommes sur un sujet brûlant d'actualité avec la sortie, comme nous le disions à l'instant, de ce reportage sur BFM. Et nous avons en ligne toujours Jean-Michel Dunan du collectif Rien à guérir. Jean-Michel, tu nous as expliqué les tenants, les aboutissants de ce que pouvait être une emprise, le rapt du je, le rapt de la personnalité et du groupe. Mais finalement, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que ces groupes peuvent agir, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans des paroisses, ils sont soutenus par des prélats. Comment est-ce que toi, tu connais cette ramification ?
Alors, dans le cas de Torrent de Vie, ils ont le soutien, c'est indéniable, de certains pasteurs évangéliques. Alors, je ne voudrais pas mettre tous les pasteurs évangéliques dans le même panier, si je puis dire, parce que ça serait totalement faux. Il y a des pasteurs évangéliques, d'ailleurs, avec lesquels notre collectif Rien à guérir et en particulier moi-même travaillons. Et il y a des vraies et belles et authentiques réflexions et des beaux déplacements ensemble. Donc, surtout, ne mettons pas toutes les personnes dans le même panier, ça ne serait pas du tout juste. En revanche, ils ont le soutien d'églises et donc de pasteurs évangéliques, ça c'est indéniable. Ils ont, dans l'Église catholique, le soutien de certains mouvements traditionnalistes, pour ne pas dire intégristes. Certaines communautés traditionnalistes, intégristes catholiques sont très 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 proches et ont cette approche-là. Je ne vais pas faire une espèce de grand cocktail, mais l'approche qu'a par exemple un mouvement qui est dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, Civitas de l'homosexualité, c'est un mouvement qui fait là aussi le lit. C'est une approche qui fait aussi le lit des thérapies de conversion. Et ils sont très soutenus par des communautés traditionnalistes, intégristes, dans lesquelles il faut le noter. Il y a un nombre certain de jeunes, et de jeunes qui peuvent être très très vulnérables. Voilà, donc oui, c'est indéniable qu'ils ont le soutien de responsables de l'Église.
Ouais. Et des évêques connus ou pas? Je pense que mon regard se tourne vers Fréjus, je me trompe?
Alors, il a soutenu Dominique Ray, qui est actuel évêque de Fréjus-Toulon, a soutenu Courage. Ça, c'est vrai. Il a d'ailleurs été un des évêques français à accepter le premier, je crois, si je ne me trompe pas, que Courage soit implanté dans son diocèse. Il y avait aussi l'évêque de Bayonne, Marc Ayet, qui a eu des velléités d'installer Courage, mais c'est tombé presque en même temps que la révélation des thérapies de conversion en son sein, donc il a fait un peu un rétropédalage. Je ne sais pas jusqu'où, parce que là aussi, il peut y avoir il y a une vigilance à avoir, on ne sait jamais trop. Il y a plutôt des évêques, alors en rupture avec Rome, tout ce que l'on appelle le schisme, le fréviste, tout ça, mais qui ont des évêques, et qui, eux, clairement disent que l'homosexualité est non seulement un péché, mais une maladie, un dérèglement, enfin tout ça. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ces communautés-là, dans ces écoles-là? Il serait intéressant d'avoir un peu le cœur net et mettre un peu le projecteur là-dessus, parce qu'encore une fois, il y a des enfants et des jeunes là. Hein, donc, alors c'est une immense fourmilière, c'est un volcan, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même aller voir un tout petit peu ce qui s'y passe.
Alors, quand on est soi-même croyant ou qu'on ne l'est pas et qu'on a vent ou qu'on comprend que pareil, pratique se déroule pour un ami ou une amie ou quelqu'un qu'on connaît. Quels sont les mots, quelle est l'approche finalement la plus favorable pour éveiller à l'attention et à l'alerte de ces pratiques?
Moi, je pense que il y a d'abord une grande qualité qu'il faut cultiver, c'est l'écoute sans jugement, parce que je pense que, encore une fois, je le redis, les personnes qui bien souvent font appel à ces sessions de restauration, comme ils les appellent, ou de guérison, le font avec une certaine bonne volonté et sont parfois dans l'incapacité d'entendre un autre discours. Donc il faut d'abord les écouter sans les juger, là où elles en sont, et puis essayer de, et ça c'est le travail éducatif aussi, c'est pour ça que je suis très très inquiet quand je vois que ces groupes-là ont des écoles ou travail éducatif, c'est de développer le sens critique, et là il y a tout un travail aussi des différents groupes LGBT qui sont dans la prévention et tout cela, et une parole très claire pour dire que l'homosexualité sexualité n'est pas un choix, n'est pas une maladie, enfin, c'est à dire, à répéter, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous en avons, je pense, acquis l'intime conviction, parfois au terme, ou en tout cas pendant un long chemin, mais ce n'est malheureusement pas un acquis dans beaucoup de cerveaux religieux en particulier. Donc il faut... oui, je pense que et puis se faire aider aussi, modestement, notre collectif Rien à guérir ou d'autres instances qui peuvent nous aider à accompagner au mieux ces personnes, non pas seules, mais en groupe, quoi. En tout cas, il ne faut surtout pas les lâcher, parce que encore une fois, ça peut aller très très loin dans la détresse, quoi. Oui.
Effectivement, et on pense à Angers notamment. Un jeune, il y a plusieurs années, de l'Université catholique de l'Ouest qui avait mis fin à ses jours avec un contexte à peu près similaire, mais dans une clinique, parce qu'il y a aussi l'aspect médical qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on fait passer le médical supra-normal, alors que c'est quand même une tentative de conversion de thérapie, parce que la personne, elle perd pied et elle est dépressive. Et on le fait passer ensuite sous l'aspect médical, mais le début de cette affaire-là, c'est quand même l'image absolument dégradée des personnes, d'elles-mêmes, avec tout un discours familial. Je pense là spécialement à ce cas où, familialement, c'était un discours tenu. Alors, la loi, même si tu n'es pas juriste, tu attends quoi, toi, exactement de la loi de janvier 22?
Moi, j'espère, là, j'en parlais là aussi hier avec un journaliste, j'espère vraiment qu'il y aura un signe fort, comme l'a dit ce matin le vice-président de SOS Homophobie sur France Inter, si je ne me trompe pas, mais j'en parlais déjà hier. J'espère qu'il y aura un signe fort envoyé aux victimes, et particulièrement aux victimes comme moi, par exemple, qui ne pouvons pas faire appel à la loi de Jean 2022. Donc et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait un signal fort envoyé et que, mais je crois que c'est ce que souhaite la ministre, que je salue d'ailleurs, qui a réagi très très rapidement.
Alors tu parles de Bérangère Couillard, qui est la nouvelle jeune ministre du ministère, donc, et des délégués à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, et qui est donc qui a donc la DILCRA sous ses ordres, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est à ce nom-là qu'elle a demandé à la DILCRA et contacté et porté plainte près du procureur. C'est ça que tu signifies.
Exactement. Et je salue sa réactivité. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à. Alors moi, je ne suis pas juriste comme tu viens de le dire, mais à amener Torrentvie à être condamné, quoi. Et ça serait un signe fort envoyé aux victimes. Et je pense que ça pourrait aussi aider des victimes qui ont peur de parler, parce qu'il y en a, c'est pas une vue de l'esprit, hein, j'ai des visages là au moment où je te parle, parce que des gens qui ont peur de parler, qui sont encore beaucoup finalement dans l'emprise et qui ont peur de témoigner, bon, et on peut les comprendre, hein, tout à fait, parce que c'est hyper violent pour elles encore, ça pourrait peut-être les aider à faire un pas vers la justice de notre pays. En tout cas, voilà, moi je ne pensais pas que ça arriverait comme ça, mais j'espère. Ça, à la fois, ça ne me surprend pas, mais en même temps, je ne pensais pas qu'on aurait cette situation-là aujourd'hui. Mais je pense que ça pourrait être, entre mille guillemets, une super belle opportunité, pour envoyer un signal fort aux victimes et en même temps à toutes celles et ceux, groupes, individus qui continuent à pratiquer sur notre sol les thérapies de conversion.
En fait, là, ça va être le baptême du feu de cette loi et il va falloir évidemment bien surveiller ce que le parquet, le procureur va décider en fonction de l'enquête, en fonction de la réalité de ce qui se passe, parce que déposer plainte ou tout au moins saisir le procureur et voir ce qu'il y aurait comme chef de poursuite, contre l'activité elle-même. Y a-t-il des victimes? Y aura-t-il des victimes dans ce groupe filmé qui souhaiteront déposer plainte? Rien n'est moins sûr. Donc là, la loi va être soumise à l'épreuve du feu, si on peut dire. Alors, il y a une proposition de loi qui serait actuellement en instance d'un député de Charente, Raphaël Girard, pour que des associations puissent se porter partie civile aussi, mais avec toute la difficulté. Voilà.
Pardon. C'est d'ailleurs, alors Benoît Berck, qui est notre porte-parole, le rappelle ces dernières heures sur les réseaux sociaux et ailleurs. Effectivement, c'était une de nos demandes, nous, rien à guérir depuis le début, ouais, de pouvoir se porter partie civile. Ouais,
mais avec l'aspect juridique toujours compliqué, qu'il faut avoir l'accord d'une victime concernée, puisque c'est la règle juridique, et même pour les cas d'homophobie ou de transphobie, de lesbophobie ou de biphobie, c'est exactement la même règle. Là, on ne peut pas couper à la règle générale. Toi, tu formes quel espoir par rapport à la situation globale sur relations, homosexualité, religion?
Ah bien, moi, je suis plein d'espérance parce que, non pas de manière béate, mais je suis plein d'espérance parce qu'on n'arrête pas la vie. Donc la vie est là, l'amour est là surtout. Moi, je vois des jeunes qui sont pour certains et certaines dans une très belle démarche de foi, parfois qui a été remise en question, qui a traversé des tas de doutes, mais qui sont dans une foi profonde. Là, je parle du christianisme, hein, une foi chrétienne, et qui sont en même temps homo. Je pense par exemple à deux jeunes filles là qui vont se marier samedi prochain, enfin pas samedi après-demain, mais le 9 septembre, en l'absence de leur famille, parce que les deux familles sont des jeunes filles qui ont une vingtaine d'années, hein, qui sont de deux familles hyper cathos, les deux familles les rejettent, elles vont se marier, elles désirent avoir des enfants, bâtir une famille, elles sont à la fois profondément bien dans leur amour, je crois, qui est en train de se déployer, et en même temps, après avoir traversé beaucoup aussi d'épreuves, et on peut l'imaginer d'où elles viennent, profondément. Et c'est pour ça que je dis on n'arrête pas la vie. Donc la vie est là, et je m'appuie beaucoup sur ces visages-là, parce qu'on peut faire des tas de théories, mais là, ce sont des visages qui disent qu'on n'arrête pas la vie, que c'est comme une source qui ne cesse de couler, et ça, c'est l'objet de beaucoup d'espérance en moi. Et puis le second versant, mais qui lui est intrinsèquement lié, c'est que pour des personnes comme moi, qui avons un peu roulé leur bosse depuis des années, dans l'église, eh bien, on travaille maintenant, je travaille dur, dans le dur, pour que la doctrine s'approfondisse et change. Donc, c'est un travail dur, j'ai bien conscience que c'est dur, je ne le mène pas tout seul, bien sûr, avec d'autres, mais c'est un travail dur, dans le dur, mais pour les générations suivantes, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Alors, ce qui nous aide en ce moment, c'est que on sent quand même, alors ça fait pas l'objet de beaucoup de médiatisation, et d'une certaine manière tant mieux, mais on sent quand même qu'il y a un nombre quand même important, alors il ne s'agit pas de faire du nombre, mais de nombreuses personnes sont dans cette même réflexion, donc on n'est pas seul. En face, bien sûr, ou sur les côtés, comme vous voulez, il y a des détracteurs, il y a de la violence, il y a de la haine, on veut nous empêcher d'avancer, mais là non plus, on n'arrête pas la vie, quoi. On n'arrête pas ce mouvement de réflexion, on n'arrête pas cette intelligence qui cherche, l'esprit critique, etc., etc. Et puis, un texte fut-il biblique, il est à interpréter, à réinterpréter, à travailler. C'est un texte de nomade, donc c'est un texte qui a été écrit en marchant, donc on n'a pas besoin de plus aujourd'hui pour se dire continuons cette avancée, cette marche, cet approfondissement. Donc moi je suis à la fois parfois, oui, disons inquiet devant la montée des intégrismes, des groupes identitaires, des groupes fermés, mais ils font beaucoup de bruit parce qu'ils sont très bien organisés, ils sont très réactifs sur les réseaux sociaux. Finalement, ils sont pas très très nombreux, mais ils bougent beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Je crois, parfois oui, c'est vrai que ça m'inquiète, mais je suis beaucoup plus dans l'espérance quand je vois l'amour, la vie, et puis ce travail que nous menons. Je reçois, alors, je n'exagère pas en disant plusieurs fois dans la semaine des messages particuliers de tout jeunes, particulièrement sur Instagram, hein, qui ont parfois 15, 16 ans, qui me disent, monsieur, voilà, on lit l'évangile, on aime bien le Christ, Jésus, tout ça, puis en même temps, on est trans, on est homo, alors comment? Alors j'essaye de répondre en leur disant toujours, mais moi j'ai 58 ans, vous vous rendez compte, je suis plus toute votre génération. Je dis, mais monsieur, c'est tellement important que vous soyez là pour nous, parce que vous avez vécu tout ça, puis vous êtes resté dans l'Église. Alors ça me touche beaucoup, parce que effectivement, c'est une des grandes passions de ma vie, dans tous les sens du mot passion, quoi. Je suis plein d'espérance. Il y a de beaux visages qui sont là. Alors, en même temps, il faut être dans une, en particulier pour ce sujet des thérapies de conversion, dans une vigilance. Mais modestement, mais honnêtement, je crois que j'ai jamais quitté. C'est pas parce que la loi a été votée en janvier 2022 que j'ai quitté cette attitude de fond de la vigilance. Toujours dit, je resterai vigilant, particulièrement pour les jeunes générations. Et je continue à être dans cette vigilance.
Ouais. Donc, c'est sur ce message d'espérance, de vigilance, que l'on dit à celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes concernés par des thérapies de conversion, quelle que soit la forme, pas forcément torrent de vie, mais des obligations, des suggestions soutenues, vous n'hésitez pas, vous ne restez pas seul, vous en parlez, vous allez vers l'association LGBT la plus proche, et si vous êtes à Angers, bah c'est Quasar, 0658 422 717.
Alors, je voudrais juste, avant de vous dire bonsoir, vraiment remercier Quasar, et particulièrement, bien sûr, tout le monde à Quasar, mais particulièrement les jeunes engagés. Je parlais de la vie et de ces visages pleins d'espérance. J'ai eu la joie de venir à Angers plusieurs fois, et j'ai dans le cœur des très beaux et inspirants visages de jeunes engagés à Quasar. Et voilà, ça, quand parfois je suis un peu inquiet, ce sont ces visages-là qui me reviennent, et puis allez Michel, on est reparti, on continue.
C'est l'image qu'on gardera, et on salue également nos amis de David et Jonathan Anjou.
Oui, bien sûr.
Allez, merci, très belle soirée Jean-Michel, merci beaucoup, merci, et Michel. Au plaisir, à bientôt.
Au revoir.
Ça tombe bien, juste après un sujet aussi inquiétant, une musique qui nous interpelle. Et pourtant, Lucky Love, je veux de la tendresse. Vous y êtes ? Nous aussi. 101.5 Radio G, Quasar, on y était, encore quelques minutes avant de refermer cet opus estival.
J'ai trop rêvé dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je lance des SOS. Et je fous ma bouteille à la mer. Je cherche amour, beaucoup de tendresse. Câlin partout, beaucoup de caresses. Ciel toujours bleu, bisous, ça presse. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver. S'abstenir si par gentillesse. Tendresse, tendresse. Je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Je veux plus qu'on me blesse. Je me vois encore dans les nuages, des grands bateaux, des paysages, des formes longues, des grandes plages. C'était mon seul livre d'images. Je cachais mes rêves dans mon cartable. Entre mes livres et mes crayons, des mots d'amour sur toutes les pages. J'ai pas grandi, je suis dans le coton. Tendresse, tendresse. Je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu. Toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Ce que j'attends depuis que je mange plus de sucre d'orge. Quelque part avec des enfants, c'est peut-être ça leur îlot trésor. Je voudrais voler vers le soleil,
avec tous ceux que j'aime qui m'aiment. Voler plus loin que le gris du ciel, du côté où la vie est belle. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse.
Et on ne le blessera pas, Lucky Love. Vous vous souvenez, quand nous avons fait notre playlist avec Jolan, ma fille, il y avait Kim Petras, notamment, et une autre de ses camarades avec ce titre. Et je lui disais, mais finalement, ce rythme ressemble terriblement à un titre qu'on a bien connu. Cas dans les premières notes, et puis finalement, eh bien, j'ai trouvé. Pour les plus anciens, ça vous rappellera quelque chose, non? Exactement les premières notes de ce titre de Kim Petras. Là, ce sont les UB40. Excellent souvenir de ces années reggae du B40. Allez, avant de refermer définitivement cette session d'été, l'agenda, vous notez bien, les permanences d'accueil et d'accueil et de permanence justement sont de 14h à 19h du lundi au vendredi en semaine et chaque samedi de 17h à 19h comme le samedi 2, le samedi 9, le samedi 16, le 23 et le 30 septembre. Le mardi 5, c'est transparent à 19h pour les familles, parents de personnes transgenres, agenres et non-binaires. Sur inscription, vous venez, vous rencontrez des personnes de la team Trans Inter. Le mercredi 6 à 18h, toujours dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem, c'est la permanence juridique. Vous venez avec vos problèmes, vous êtes discriminé, violenté, on vous injurie sur des critères d'orientation sexuelle, identité de genre. Vous venez nous voir, on vous aide. Attention, reprise des permanences 15-25 le samedi 9 à 15h. Le dimanche 10, 14h30, c'est l'après-midi spécial jeu dans nos locaux. Le jeudi 14, roulement de tambour, c'est le retour de Quasar en Zière, saison 2023-2024 à 20h pour une nouvelle année radiophonique. Vendredi 15 à 20h, c'est la conviviale. Et puis le samedi 16, retour des cours de français à 10h et de Transat à 15h, le groupe d'échange. et de discussion pour tout ce qui va être des problèmes, des discussions en tout cas entre personnes cisgenres, transgenre, agenre et non binaire, à l'exclusion des personnes cisgenres, c'est ce que je voulais vous dire, puisque ça ne se passe qu'entre personnes concernées. Bon ben voilà, c'est déjà fini. Une saison, un été qui se termine, c'est toujours un peu pincement au cœur, mais en tout cas on a été content d'être avec vous. On se donne rendez-vous le 14 septembre à 20h sur Radio G 101.5. Passez une belle semaine et à bientôt.
Radio G 101.5 FM.